Chapitre 34. Une mort glorieuse. Quelques jours après les événements racontés dans notre dernier chapitre, on vint prévenir Fabiola qu'un vieillard, qui paraissait en proie à une angoisse feinte ou réelle, désirait lui parler. Elle descendit vers lui et lui demanda ce qu'il voulait. Il répondit « Je m'appelle Ibrahim, noble dame, et j'ai une forte créance garantie sur les propriétés de la noble Agnès qui sont maintenant entre vos mains. Je viens donc faire valoir mes droits devant vous. Si vous ne les reconnaissez pas, je suis un homme ruiné. » « Comment est-ce possible ? » demanda Fabiola étonnée. « Je ne puis croire que ma cousine ait jamais contracté de dette. » « Non, ce n'est pas elle, » répliqua l'usurier un peu interloqué. « C'est un jeune patricien appelé Fulvius à qui ses biens devaient revenir par la confiscation. Aussi, je lui ai avancé de grosses sommes hypothéquées sur ses futures propriétés. » Le premier mouvement de Fabiola fut de chasser cet homme de sa maison, mais la pensée de la sœur de Fulvius traversa son esprit et elle répondit poliment au juif. « Quelles que soient les dettes que Fulvius a contractées, je les acquitterai, mais seulement à l'intérêt légal et sans payer le taux de l'usure. » « Mais songez au risque que je courais, madame. Mes demandes n'ont eu rien d'exagéré, je vous assure. »« C'est bien, » reprit Fabiola. « Appelez mon intendant et il arrangera cette affaire. Vous ne courez plus le moindre risque. » Elle donna ses instructions à l'affranchi qui s'occupait de ses affaires, afin qu'il payât la somme aux conditions qu'elle prescrivait et qui réduisait de moitié la demande du juif. Mais elle entreprit bientôt avec son intendant une tâche autrement difficile et laborieuse, celle de vérifier les comptes de Fabius, de relever les injustices et les exactions de ce dernier afin de les réparer. Puis, ayant vérifié que Corvinus avait obtenu par le crédit de son père le rescrit impérial qui préservait ses propriétés légales de la confiscation, tout en refusant de le voir, elle lui fit donner une somme qui lui procurait de l'aisance pour toute sa vie. Ses affaires temporelles étant terminées, Fabiola se livra tout entière aux soins de la malade et à la préparation qui précédait le baptême. Pour hâter la convalescence de Myriam, elle se rendit avec elle et une partie de ses gens dans un endroit qui était cher aux deux amis. Nous voulons parler de la Villa Nomentane. Le printemps était venu, on pouvait apporter la couche de Myriam près de la fenêtre, et même au milieu du jour, on la descendait dans le jardin devant la maison. Fabiola et Emerentia se plaçaient à ses côtés, le pauvre vieux Molossus, qui ressemblait à une âme en peine, se couchait à ses pieds, et les jeunes filles parlaient ensemble des amis qu'elles avaient perdus, et surtout de celles dont tout ce qui les entourait rappelait la douce mémoire. Et quand elles prononçaient le nom d'Agnès, son vieux gardien fidèle dressait les oreilles, agitait la queue et regardait autour de lui. Souvent aussi, elle parlait du christianisme, quand Myriam pouvait suivre avec son humilité et sa simplicité habituelle, mais avec le regard embrasé qui tout d'abord avait charmé Fabiola, les instructions du Saint-Prêtre Dionysius. C'est ainsi que lorsqu'il avait redit la vertu et le sens du signe de la croix, tracé au baptême sur le front des croyants, sur l'eau par laquelle ils étaient régénérés, sur l'huile et sur le saint crème dont on les soignait, sur le sacrifice même qui les nourrissait. Myriam expliquait aux catéchumènes l'usage pratique et journalier de ce signe sauveur. Elle les exhortait à imiter ce que faisaient fidèlement les chrétiens, à tracer déjà sur elles le signe de la foi dans le cours et au commencement de leurs occupations, en entrant et en sortant, en mettant leurs vêtements ou leurs sandales, en se levant, en se mettant à table, en allumant leurs lampes, en se couchant, en s'asseyant, au début de leur conversation. Mais tous, excepté Fabiola, remarquaient avec peine que la malade, malgré la guérison de sa blessure, ne gagnait pas de force. C'est bien souvent la mère ou la sœur qui s'aperçoit la dernière des lents ravages de la maladie sur son enfant ou sur sa sœur. L'amour est toujours plein d'espérance parce qu'il est aveugle. La rougeur de la phtisie empourprait la joue de Myriam, elle était faible et amaigrie, et une toux sèche s'échappait de ses lèvres. Elle dormait peu et exprima le désir d'avoir son lit placé de façon que, dès l'aube, elle pût contempler un lieu plus beau à ses yeux que les plus riches parterres. Depuis longtemps, de ce côté de la villa, il y avait une porte du cimetière. Mais déjà, à cette époque, ce cimetière avait reçu le nom d'Agnès, car c'était près de l'entrée qu'on avait enterré le corps de la Sainte Martyre. Son cœur reposait au milieu d'un cubiculum, ou chambre, sous une tombe voûtée. Au-dessus de la porte du caveau, et dans le centre du terrain, était une ouverture entourée d'un bas parapet caché par les broussailles. Cette ouverture était destinée à aérer la pièce du bas. C'était de ce côté que Myriam aimait à diriger ses regards. Vu sa faible santé, c'était ainsi seulement qu'elle pouvait se rapprocher de la tombe de celle qu'elle avait si tendrement aimée. Un jour où la matinée se levait calme et belle, car quelques semaines la séparaient seulement de Pâques, Myriam regardait dans cette direction quand elle remarqua une demi-douzaine de jeunes gens qui allaient pêcher dans l'Agneau et qui, pour abréger leur route, pénétrèrent sur le territoire de la villa en commettant ainsi un délit. Ils passèrent près de cette ouverture et l'un d'eux, se penchant pour regarder, appela ses camarades. « Voici une des cachettes souterraines des chrétiens, » dit l'un. « Un de leurs terriers mystérieux. « Entrons, » dit l'autre. « Oui, et comment remonterons-nous » demanda un troisième. Myriam ne put entendre ce dialogue, mais elle vit ce qui suivit. Celui qui avait regardé avec le plus de soin, en garantissant ses yeux de la lumière, engagea les autres à faire de même, en les invitant par des gestes au silence. Dans un moment, ils arrachèrent de grosses pierres de la voûte rocheuse d'une fontaine qui était tout près d'eux et en jetèrent une volée sur quelque chose qu'ils voyaient en bas. Ils riaient aux éclats en s'en allant, et Myriam supposa qu'ils avaient aperçu au fond du caveau un serpent ou un animal nuisible et qu'ils s'étaient amusés à le lapider. Quand tout le monde fut levé, elle raconta le fait afin qu'on enlevât les pierres. Fabiola descendit elle-même avec quelques serviteurs, car elle ne laissait à personne le soin de garder la tombe d'Agnès. Quelle fut sa douleur en trouvant la pauvre Emerentia qui était descendue pour prier sur la tombe de sa sœur de lait et qui reposait, baignée dans son sang et privée de vie. On découvrit que la veille au soir, Emerentia, passant près d'une troupe de païens qui se livraient à une orgie, fut invitée à se joindre à eux et que non seulement elle avait refusé, mais leur avait reproché leur méchanceté et leur cruauté envers les chrétiens. Ils l'assaillirent alors à coups de pierre et la blessèrent grièvement. Elle échappa à leur fureur en entrant dans la villa. Se sentant faible et blessée, elle se traîna inaperçue pour prier jusqu'au tombeau d'Agnès. Elle était trop faible pour s'enfuir quand quelques-uns de ses ennemis de la veille la découvrirent. Ces païens, brutaux et cruels, devancèrent le ministère de l'Église en conférant à l'enfant le baptême du sang. On l'enterra près d'Agnès et la modeste enfant du peuple reçoit chaque année la glorieuse commémoration des saints. Fabiola et ses compagnes traversèrent le cours de la préparation ordinaire, abrégée cependant à cause de la persécution. Demeurant à la porte d'un cimetière qui renfermait de larges églises, elles purent passer par les 3 degrés des catéchumènes. D'abord, elles furent écoutantes, admises à la lecture des leçons, puis agenouillées, assistantes à une partie des prières liturgiques, et enfin élues ou attendant le baptême. Une fois admises dans cette classe, elles durent se rendre plus souvent à l'église, plus particulièrement les mercredis qui suivent le premier, le quatrième et dernier dimanche de carême, jours pour lesquels le missel romain contient encore une seconde collecte et une leçon qui viennent de cet usage. Celui qui lirait le rituel en usage dans l'église catholique, pour le baptême des adultes en particulier, verrait condensé dans un seul office les cérémonies séparées autrefois en plusieurs jours. Un jour, on faisait la renonciation à Satan, cérémonie qui se répétait juste au moment du baptême. Un autre jour était consacré à l'attouchement des oreilles et des narines, à l'effetus, comme on l'appelait alors. Puis on répétait les exorcismes, les génuflexions, les signes de croix et les souffles sur le front et sur le corps des aspirants au baptême. Ces cérémonies étaient suivies d'autres rites mystérieux. L'onction solennelle, qui n'était pas restreinte seulement à la tête, mais qui s'étendait à tout le corps, venait ensuite. On étudiait aussi le credo et on l'apprenait par cœur. Mais la doctrine de la Sainte Eucharistie n'était enseignée qu'après le baptême. C'est dans ces occupations multipliées que s'écoulait promptement le temps de pénitence solennelle du carême. Enfin, la veille de Pâques arrivait. Il n'entre pas dans notre sujet de décrire les cérémonies de l'Église pendant l'administration des sacrements. Le code liturgique reçut de grands développements quand la paix fut rendue à l'Église. Ces développements, qui rehaussèrent la splendeur des cérémonies extérieures, étaient incompatibles avec la cruelle persécution que l'Église endurait alors. Il nous a suffi de démontrer que, pendant les trois premiers siècles, non seulement les doctrines et les rites sacrés, mais les cérémonies, dans ce qu'elles avaient d'accessoires, étaient semblables à celles de notre temps. Si notre exemple est trouvé digne d'être suivi, une personne essaiera peut-être de retracer les souvenirs d'une période plus brillante que celle que nous avons choisie. Le baptême de Fabiola et de sa maison ne réjouit les nouveaux chrétiens que d'une joie toute spirituelle. Les titres de la ville étaient tous fermés, même l'église du Saint-Pasteur avec son baptistère papal. C'est pourquoi, de grand matin à cet heureux jour, la petite troupe se glissa le long des murailles, du côté opposé à la ville, suivit la voie Portuensis, chemin qui conduisait au port de l'embouchure du Tibre, puis s'engagea dans une vigne près des jardins de César et descendit dans le cimetière de Pontianus, honoré comme lieu de repos des martyrs persans Saint Aldon et Saint Sénin. La matinée fut employée à la prière et à la préparation. Vers le soir commença l'office solennel qui devait se prolonger pendant la nuit. Quand le moment de l'administration du baptême arriva, la cérémonie prit un vrai caractère de tristesse. On avait recueilli les eaux d'une source souterraine dans une sorte de citerne carrée, profonde de 4 ou 5 pieds. Ces eaux étaient claires, mais semblaient froides et lugubres, si nous pouvons employer cette expression, dans ce bassin souterrain creusé dans le tuf ou rocher volcanique. Une longue suite de marches conduisait à ce baptistère grossier. Sur le côté, on voyait un petit rebord pour le ministre sacré et le candidat qu'on devait plonger 3 fois dans les eaux purifiantes. Toutes ces choses restent encore dans le même état qu'alors. On voit seulement au-dessus du réservoir une peinture représentant Saint Jean baptisant Notre Seigneur et qui a dû être faite 1 siècle ou 2 plus tard. Immédiatement après le baptême venait la confirmation. Puis le néophyte, cet enfant nouveau-né de l'Église, recevait les instructions nécessaires à la suite desquelles il était admis pour la première fois à la table de son Seigneur et nourri du pain des anges. La journée de Pâques n'était pas encore avancée quand Fabiola regagna sa villa. Sa première salutation à Myriam fut un long et silencieux embrassement. Elles étaient toutes deux si heureuses, si joyeuses, si bien récompensées de tout ce qu'elles avaient fait l'une pour l'autre pendant des mois, que des paroles n'auraient pu exprimer leurs sentiments. La grande idée qui remplissait Fabiola d'orgueil en ce jour était de penser qu'à présent, elle avait atteint le niveau de son ancienne esclave. Elle savait qu'elle ne l'égalait pas en vertu, en beauté de caractère, en grandeur d'âme, en sagesse céleste, en mérite devant Dieu. Oh non, elle se sentait bien inférieure à elle sur ce point. Mais elle était devenue, comme Myriam, l'enfant de Dieu, l'héritière de son royaume éternel, un membre vivant du corps du Christ. Elle était admise à partager toutes ses miséricordes, tout le prix de sa rédemption. Elle était nouvellement créée en lui, elle sentait qu'elle devenait l'égale de Myriam et lui dit son bonheur avec un regard radieux. Jamais Fabiola n'avait été si orgueilleuse d'un vêtement splendide qu'elle paraissait l'être de la robe blanche qu'elle avait reçue en sortant des fonds et qu'elle devait porter pendant 8 jours. Mais notre Père miséricordieux s'est mélangé nos joies et nos douleurs et nous envoie ces dernières quand il nous a préparés à les mieux recevoir. Dans le temps d'embrassement dont nous avons parlé, Fabiola remarqua pour la première fois la respiration haletante et l'oppression de sa sœur bien-aimée. Elle ne voulut pas se rapporter à son propre jugement et envoya demander à Dionysius de venir le lendemain. Le soir, tous prirent ensemble leur banquet du jour de Pâques. Fabiola se sentit heureuse de présider à côté de Myriam. Une table autour de laquelle étaient assises ou couchées ses esclaves converties et celles d'Agnès qu'elle avait toutes gardées. Elle ne se souvenait pas d'avoir assisté à un si joyeux souper. Le lendemain, de bonne heure, Myriam appela Fabiola près d'elle et, d'une voix plus tendre et plus caressante encore que sa voix accoutumée, elle lui dit « Ma chère sœur, que ferez-vous quand je vous aurai quittée ?» La douleur suffoqua la pauvre Fabiola. « Allez-vous donc me quitter ? J'espérais que nous vivrions toujours ensemble comme deux sœurs. Mais si vous désirez quitter Rome, ne puis-je pas vous suivre, au moins pour vous soigner, pour vous servir ?» Myriam sourit, mais une larme brilla dans ses yeux. Elle prit la main de sa sœur et leva son bras vers le ciel. Fabiola la comprit et répondit « Oh non, non, ma sœur bien-aimée, priez Dieu qui ne vous refusera rien afin que je ne vous perde pas. Je suis égoïste, je le sais, mais que ferais-je sans vous ? Et maintenant que j'ai appris le pouvoir tout-puissant de ceux qui règnent avec le Christ et qui intercèdent pour nous, je prierai Agnès et Sébastien de supplier le Seigneur afin de détourner de moi une si grande douleur. Soignez-vous bien, je suis sûre que votre mal n'a rien de sérieux. La chaleur et le doux climat de la Campanie vous rétabliront bientôt. Nous irons encore nous asseoir auprès de la source pour parler de choses meilleures que la philosophie. » Myriam secoua la tête, non avec découragement, mais avec joie, en répliquant « Ne vous flattez pas de cet espoir, chère Fabiola. Dieu m'a épargnée afin que je voie cet heureux jour. Mais sa main m'a marquée pour la mort, comme elle m'avait préservée pour la vie, et je m'en vais avec joie. Je connais trop bien le nombre de mes jours. » « Oh, ne me laissez pas si tôt !» sanglota Fabiola. « Tant que vous aurez votre robe blanche, je resterai, chère sœur. Je sais que vous voudrez porter mon deuil et je ne voudrais pas vous priver une heure de votre vêtement mystique. » Dionysus arriva et remarqua un grand changement dans la malade qu'il n'avait pas vu depuis quelque temps. Ce qu'il craignait était arrivé. La pointe acérée de la dague, qui avait entamé l'os et atteint la plèvre, amenait la phtisie. Il confirma les pressentiments de Myriam. Fabiola alla chercher de la résignation près du tombeau d'Agnès. Elle pria longtemps et avec ferveur, pleura amèrement, puis revint près de Myriam. « Ma sœur, lui dit-elle avec fermeté, que la volonté de Dieu soit faite. Je suis prête même à vous donner à lui. À présent, dites-moi, je vous en supplie, ce que vous désirez que je fasse quand vous m'aurez été ravie. » Myriam leva les yeux au ciel, puis répondit « Déposez mon corps aux pieds d'Agnès et restez à veiller près de nous. Priez la Sainte Enfant et priez pour moi jusqu'à ce qu'un étranger, porteur de bonnes nouvelles, arrive de l'Orient. » Le dimanche suivant, le dimanche des blancs vêtements, Dionysius célébra, par une permission spéciale, les sacrés mystères dans la chambre de Myriam et lui administra la Sainte Communion en viatique. Cette célébration privée, comme nous l'apprenons de saint Augustin et d'autres auteurs, n'était pas un rare privilège. Puis le prêtre lui fit les onctions avec l'huile sainte en les accompagnant des prières que l'Église récite en conférant les derniers sacrements. Fabiola et ses femmes, qui, tout en larmes, avaient assisté à cette suprême cérémonie et joint leurs prières à celles du prêtre, descendirent dans la crypte. Puis, après les divins mystères, vêtues de leurs plus sombres vêtements, elles se réunirent près de Myriam. « L'heure est venue, » dit-elle en prenant la main de Fabiola. « Pardonnez-moi si j'ai manqué à mes devoirs envers vous et au bon exemple que je vous devais. » C'en était trop. Fabiola ne pouvait plus se contenir et elle éclata en sanglots. Myriam la calma doucement et lui dit « Approchez de mes lèvres le signe du salut quand je ne pourrai plus parler. Et vous, mon bon Dionysius, lorsque je ne serai plus, souvenez-vous de moi à l'autel de Dieu. » Il pria à son côté et elle répondit jusqu'à ce que sa voix s'affaiblit peu à peu. Mais ses lèvres remuaient encore et pressaient la croix qu'on lui présentait. Elle paraissait calme et sereine. Levant enfin sa main à son front et la portant ensuite à sa poitrine, elle retomba privée de vie en faisant le signe de la croix. Un sourire passa sur sa figure et elle expira comme des milliers d'enfants du Christ ont expiré depuis. Fabiola la pleura de toute son âme, mais elle pleura cette fois comme ceux qui ont perdu l'espérance.